Et si nos petites histoires racontaient la grande histoire ?
Moi, j'appelle ça une anecdote, et c'est une anecdote au regard de l'histoire. Mais dans la vie de cet homme, c'est pas une anecdote.
À la fin de la nuit, vers 7h du matin, je lui ai raconté mon histoire.
Et de ce jour-là, ma vie a basculé.
Et il a dit, mais Joachim, c'est ton destin. C'est ton destin de gitan, même. Ça veut dire que si tu vas à l'encontre de ça, il va t'arriver des bricoles.
Moi, j'étais tellement jeune qu'il y a des choses que c'est vague dans mon cerveau.
Notre histoire raconte la vie dans une ferme française.
Le coffre aux histoires vraies.
Comment on vit en 1971 ?
Un podcast de Globe Conteur réalisé par Alaphonie.
Dans la vie de tous les jours, ça ne devait pas être très facile.
Le coffre aux histoires vraies. Destin de femme.
Moi, je me suis mariée d'abord très jeune. Mon mari est parti en Algérie. Ma vie a été très dure au départ. Et je ne peux pas dire qu'à ce moment-là, on ne peut pas dire que les gens vous aidaient parce que tout le monde avait peut-être beaucoup à faire aussi.
Je suis partie travailler à l'usine. Eh bien, elle me disait que c'était la débauche dans les usines, là. C'était pas un bon endroit pour les jeunes filles d'aller travailler à l'usine et à la chaîne. Oui, elle pensait que rester à la maison, c'était mère au foyer, c'était très bien.
Bon, on m'a pas demandé qu'est-ce que tu veux faire. On m'a dit, t'as de la chance, on t'a trouvé un métier. Quel métier ? Qu'est-ce que tu... Couturière. Ah bon ? Tu réponds pas.
J'étais pas très bonne à l'école, mais excellente en rédaction. J'avais toujours la meilleure note. J'adorais lire et écrire depuis toute petite. La maîtresse m'aurait bien vue continuer et être institutrice. Mais pour les parents, c'était pas la même vision. Et ils n'ont pas cédé. À 14 ans, ils m'ont mise en apprentissage pendant 3 ans chez une couturière.
Alors je suis partie comme couturière. Apprendre le métier, donc j'ai passé 3 années.
J'aimais pas ça, j'étais pas douée du tout.
La couturière chez qui je travaillais, elle était obligée de m'envoyer, de me donner le lundi pour aller au cours. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, lire, on n'avait pas de livre, on lisait pas. Et à tel point qu'on n'avait pas de livre, quand je réussissais à en avoir, c'était n'importe quoi. N'importe quoi,
tout ce que tu tombais
sous la main.
Et
je me cachais. Je me cachais. Ma chambre était près d'une bibliothèque. J'avais pris un livre et je le lisais et je le mettais sous mon oreiller. Mais j'avais pas le droit. Et puis, la dame chez qui j'étais, elle me dispute, elle dit, vous êtes une voleuse, tout ça.
Vous êtes une voleuse.
Et elle a appelé la personne qui s'occupait de moi pour dire, elle a pris un livre. J'avais pas le droit de lire, on n'avait pas le droit de lire. J'avais pas. Et pour moi, c'était quelque chose d'important de lire.
J'ai toujours continué à lire et à écrire. J'ai même été correspondante de presse pour Ouest France et le Courrier Vendéen. Et cela dès mes 18 ans. En échange des articles, j'avais l'abonnement gratuit.
Mes premiers livres que j'ai achetés après, ils sont là. C'est quand mes enfants étaient petits, je me disais quand même, tu dépenses de l'argent. Mais je me suis acheté des livres. C'est ça que j'ai... Ils sont là.
Ils sont encore là.
Toute la série est là. Des auteurs, mais des bons auteurs. Hein. C'était des bons auteurs. Et c'est pour moi la première chose que j'ai faite, c'est d'acheter des livres. Ils sont là. C'est toute la ligne blanche qui est en haut, là. Tu vois, au deuxième étage.
Oui.
Voilà, le si peu que j'ai appris, je l'ai appris comme ça, à lire.
Que pensez-vous du livre de poche ?
Beaucoup de mal. Pourquoi ? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire, finalement, qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire. Ce qui leur a donné une espèce de prétention intellectuelle qu'ils n'avaient pas.
Mes deux sœurs se furent le même scénario. Pas le droit de dire ce qu'on voulait, pas les moyens de nous payer des études. Comme la couture n'a pas marché, on m'a envoyée aux huîtres, puis femme de ménage.
Après, quand j'ai fini mon CAP de couturière, que j'ai eu bien comme il faut, n'est-ce pas ? Et on m'a dit, bah, tu vas les bonnes maintenant. On a les bonnes. Bonnes. Voilà, c'est un mot qui n'est pas beau. Hein. Tu allais chez des travailler, mais tu ne choisissais pas non plus. On disait, tiens, il y a une place, quelqu'un t'a trouvé une place comme bonne.
C'est l'histoire de presque toutes les filles de Lille, avec en plus le choix du sel ou le travail au champ.
Et il y a toujours des gens qui avaient plus d'argent qui se faisaient servir, c'était le personnel qui venait. Des fois, c'est vrai qu'ils en profitaient beaucoup de nous quand même. On avait des petits salaires de misère, on gagnait 1,20€. Ça présentait trois fois rien, quoi.
Après l'école ménagère, oui, j'étais employée de maison sur Nantes, dans une famille. C'était des médecins. J'étais podologue. Je faisais le ménage, je faisais la cuisine, et je me souviens que le premier jour, je leur ai servi des frites, et au lieu de les salir, je les ai sucrées. Ils m'ont dit ça après, qu'ils n'avaient pas voulu me le dire sur le moment pour ne pas me gêner, mais j'avais mis du sucre au lieu du sel.
Mais par contre, moi qui étais employée chez les autres, toutes les jeunes du pays, aucune me parlait. Il y avait juste la fille du charcutier qui me parlait, parce que moi, j'étais la bonne à tout faire.
Je n'avais même pas de chambre, c'était la salle d'attente qui me servait de chambre. Il y avait une espèce de banquette et puis je dormais là. Donc il y avait des jours où il commençait son travail de bonne heure, qu'il faisait ses consultations à la maison. Et il fallait que je me lève de bonne heure pour que la salle d'attente soit redevenue une salle d'attente.
Mais c'est pour dire que, oui, il y avait le secteur bourgeois de Rochefort, les Bourges, et nous, quoi. Ça a toujours existé, ça.
Et madame était très, très pieuse. Elle disait que la catéchèse, c'était rien ce qu'on avait appris sur la religion, donc elle nous faisait le catéchisme, à moi et à la secrétaire. Et vers les années 1972, par là, la cathédrale de Nantes a brûlé. Et elle nous disait que dans la fumée des flammes, elle avait aperçu le diable.
Alors je me vengeais, quand j'étais au bal, je leur soulevais leurs petits cavaliers pour une danse ou deux. Voilà comment je faisais. Ah oui, ça c'était bien rigolo.
À 20 ans, je me marie avec un marin de l'air Baudière. On était très amoureux. On s'était aimés passionnément.
Puis là, le jour du mariage, c'était la fête. On était comme ça, 120 personnes, de la ferme jusqu'à la mairie. Un kilomètre de chemin. Les dames étaient toutes en robe longue. Les hommes avaient tous une cavalière. Que ce soit jeune ou vieux, il fallait trouver une cavalière pour la petite fille ou le petit gars. Ah oui, et puis les hommes étaient avec des nœuds, papillons, oui, aux cravates, enfin, les personnes, c'était tout le temps, c'était bien, c'était beau, c'était des beaux cortèges. On était avec mon père qui nous emmenait, et puis le marié était derrière lui, il était au bout. C'était le père qui emmenait sa fille au mariage, voilà, jusqu'à la mairie.
Ben oui, parce que mon mari, il était sur les pétroliers, à la BP. Et donc, il allait dans tous les pays étrangers. À chaque fois qu'il rentrait dans les ports de France, il me demandait, est-ce que tu peux venir me rejoindre 3-4 jours, une semaine, pas beaucoup, comme ça. Mais comme j'avais mes 4 enfants, c'était maman qui les gardait. J'ai eu 4 enfants en 4 ans. Vous voyez, j'avais pas perdu de temps. Hein. Et donc, elle me gardait mes enfants. Elle me dit, si ton mari te demande, vas-y. Parce que, vous savez, les marins, bon... Alors j'y allais comme ça, on passait des bons moments ensemble.
Et puis vous pensez, j'avais 16 ans, ils me disent, vous aimez le chocolat, je m'assois sur le lit, puis ils me donnent le chocolat, et puis il y en a un qui s'avance vers moi pour m'embrasser, mais à l'époque, j'avais peut-être embrassé personne. Eh bien, j'ai ouvert la fenêtre du troisième, j'ai dû ouvrir la chambre où je me jette à l'horizon ouvert. Ça fait que vous comprenez, c'était... Voilà. Ma défense. Et si quelqu'un me passait une fois, je repassais, il y a un monsieur qui s'est permis de me passer la main aux fesses, j'ai pris fer, je l'ai brûlé là. Il a été à la pharmacie et le pharmacien me connaissait bien. Il dit, Michel, mais tu nous envoies des clientes. Et oui, parce que ma mère m'avait dit, laisse pas approcher les hommes. On ne savait pas, vous comprenez, à l'époque, si en vous touchant, en t'enversant, tout quoi, on était vraiment nuls, nous, dans ce... C'est vrai, on ne savait rien. Hein. Après, bien sûr, on a appris, mais ça fait drôle. Hein.
Mais votre maman, elle vous avait prévenu des...
Elle avait prévenu, laisse pas approcher les hommes. Alors ça, on y a toujours bien compris. Ça fait que, moi, du coup, je me suis mariée avant l'armée, parce que je voulais coucher avec eux pour voir ce que c'était. Et j'ai poussé, non, je ne serais peut-être pas mariée. Et oui, parce qu'avant l'armée, c'était peut-être pas à faire, vous comprenez.
Qu'est-ce que c'est qu'une femme pour vous ?
Ça peut être la compagne de l'homme dans la vie.
Pourquoi ça peut être ? Ça pourrait ne pas l'être ? Ce serait quoi alors ?
C'est un être humain, alors au même titre que l'homme, si elle ne se marie pas.
Pourquoi si elle se marie ?
Si elle se marie dans les conditions actuelles, qu'elle ne peut pas être l'égale de l'homme dans le mariage.
Pourquoi ?
Les structures sociales sont faites de telle façon que la femme ne peut pas être l'égale de l'homme.
Elle devient quoi alors ? Elle est quoi alors à ce moment-là dans le... Elle est une machine à faire des enfants ?
Pas tout à fait, mais elle est presque la servante de l'homme, quoi.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ?
Non, pas du tout.
Moi, j'ai connu même mes tantes dire entre eux, on va aller se taper un petit coup. Qu'est-ce que vous voulez ? La serveuse disait. Une chopine, la patronne, du rouge ou du blanc. Oh, il y savait rien du moment que ça coule. Ouais. Et c'était la chopine. Alors, quand ils étaient toutes seules, les bonnes femmes, et la voir, vous savez ce qu'ils faisaient ? Ils disaient, vous nous mettrez deux verres. Elle était toute seule. Elle se tapait son petit coup de rouge. Elle dit, qu'est-ce qu'il fout qu'il vient pas ? Qu'est-ce qu'il fout qu'il vient pas ? Il dit, le verre est servi. Mais c'est parce qu'elle était toute seule, elle avait envie de se mettre des forces.
Et tape sur ton battoir, tu dormiras mieux ce soir.
Vous venez d'écouter un épisode du podcast Le Coffre aux histoires vraies, consacré au destin de femmes. Il met en scène quelques-uns des témoignages que l'association Globe Compteur et ses collecteurs récoltent depuis 2017 sur tout le territoire français et au-delà, à l'appui de nombreux partenariats locaux. L'objectif du projet ? Proposer une histoire populaire et sensible, tissant des liens entre les générations et les cultures. Dans cet épisode, vous avez pu entendre les récits de Micheline, collectée par Sarah à Rochefort-Montagne en Auvergne, d'Odette, collectée par Isabelle à Nantes, de Martine, collectée à l'écrit par Catherine à l'épine et interprétée par Déborah, de Janine, collectée par Blandine à Nantes, d'Eliane, collectée par Marina au Bois d'Anjou, de Janine, collectée par Catherine à Nantes, de Nina, collectée par Marie, Bénédicte et Olivier à Nantes. Le tout enrichi de quelques extraits d'archives et des bruitages de Joseph Sardin de la sonothèque.org. Retrouvez tous les témoignages via la carte vivante sur le site globecompteur.org, un podcast du studio Alaphonie.